15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Santé et Bien-être. Tous les jours de 15h à 16h, nous vous recevons ici en direct dans ce studio et on essaye de vous faire du bien, de vous rassurer sur vos petits et gros bobos quand c'est possible. En tout cas, on essaye au moins de vous éclairer. Je dis on parce qu'il est tous les jours à mes côtés. Il sort de ses consultations à domicile à l'instant, le docteur Dimi Mohamed. Bonjour Dimi.
Bonjour Mélanie.
Alors, au programme du jour, aujourd'hui une émission consacrée à une maladie du foie dont on parle de plus en plus. En tout cas, elle est au cœur des débats depuis deux jours au Grand Congrès des pathologies qui se déroule en ce moment même à Paris, la NASH, la maladie du foie gras humain, avec notre invité, l'hépatologue Patrick Marcelin. On fera le point sur cette pathologie de plus en plus fréquente en France, pour laquelle, ça y est, on dispose de quelques médicaments, on vous dira tout. Le docteur Dimi Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de l'exposition de nos enfants aux écrans. Il nous parlera notamment d'une étude qui montre que lorsqu'on l'expose à des tablettes, ordinateurs dès le matin, avant même d'aller à l'école, cela pourrait entraîner des troubles du langage chez eux. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on va parler d'un fruit qui ne nous fait pas du tout bobo, lui. Au contraire, on va parler de la banane. Que nous apporte-t-elle d'un point de vue nutritionnel et fait-elle réellement grossir? Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question des ex. Est-il normal, voire dangereux, de continuer à avoir des rapports sexuels avec celui ou celle dont on est pourtant séparé? Catherine nous dira tout, bien sûr.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première, c'est celle de Pauline.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Dimi Mohamed. J'ai arrêté d'allaiter mon bébé et depuis du coup je lui donne des biberons de lait. Mais je rajoute de l'eau, j'ai peur qu'il se déshydrate. Et donc finalement, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les besoins en eau d'un bébé? Je vous remercie, au revoir.
Alors Dimi, un bébé comme un adulte, évidemment, ça a besoin d'eau, en tout cas d'être hydraté. Mais à partir de quel âge faut réellement donner de l'eau en plus de ce qu'il y a déjà dans le biberon? Parce que finalement, le biberon, il y a de l'eau dedans.
Exactement. Alors l'eau représente 75% du poids du corps d'un nourrisson. Et l'OMS recommande avant 6 mois de ne pas donner d'eau à un nourrisson pour plusieurs raisons. La première, ça ne nous concerne pas trop, c'est car parfois l'eau peut être non pure et source d'intoxication et de diarrhée importante. La seconde, c'est que ça peut être responsable de malnutrition, car si on supplémente, on le remplace le lait par de l'eau, et ben le nourrisson va perdre du poids et ne pas grossir correctement. Enfin, chez la femme qui allait, rajouter de l'eau à l'allaitement peut faire en sorte que cet allaitement peut être réduit, puisque forcément on aura moins de lait car on donne moins. Schématiquement, on peut donner de l'eau dans certaines situations. Lorsqu'il fait très chaud, en période de canicule, n'oubliez pas que le lait maternel peut remplacer l'eau. Donc si vous allaitez votre enfant, il fait très chaud, 80% du lait maternel est fait d'eau, notamment lors des premières tétées.
Ça l'hydrate très très bien.
Lorsque vous préparez un biberon, il ne nous a pas échappé qu'on prépare le biberon
de l'eau
avec
et de
l'eau.
Poudre, ouais.
Donc en cas de forte fièvre, on peut aussi en donner puisqu'on perd plus d'eau. Même chose lorsque l'enfant a des diarrhées ou des vomissements. Dans ces cas-là, il faut donner les solutions de réhydratation orale. L'eau pure ne suffit pas et ne réhydrate pas correctement à ce moment-là.
Elle contient des minéraux et autre chose dont le bébé a besoin. Alors vous avez dit jusqu'à 6 mois pas besoin, mais après 6 mois, oui, là on donne un peu d'eau. C'est surtout au moment où il y a la diversification alimentaire.
Exactement. Même si le lait et l'alimentation restent la base de la croissance de l'enfant, il est possible
de proposer
à la demande, entre les repas, à 4 heures, un petit verre d'eau et de laisser à disposition l'enfant de boire ou pas. Attention, on n'introduit jamais de boisson sucrée, ça ne sert strictement à rien.
Donc que de l'eau.
Que de l'eau, et s'il n'en veut pas, c'est pas grave, on réessayera une autre fois.
Alors juste pour terminer, on prend de l'eau en bouteille ou de l'eau de robinet du coup?
Alors on préfère une eau faiblement minéralisée. Certaines indications sur des bouteilles vous disent que ça peut convenir à l'alimentation des nourrissons. Attention, l'eau du robinet, certaines sont trop riches en nitrates, donc demandez conseil à la mairie ou à l'agence de l'eau.
Oui, ils ont les relevés d'eau pour savoir la qualité effectivement de l'eau que vous avez chez vous, dans votre robinet.
Exactement, et à partir de 1 an, l'enfant peut boire tranquillement de l'eau du robinet.
Globalement, dans les crèches, moi je sais que ma fille, dès 1 an, on a donné de l'eau du robinet à la crèche. Donc j'ai dit pourquoi continuer à acheter de l'eau minérale, effectivement, si on donne de l'eau du robinet par ailleurs en collectivité. Merci Dimi. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Sophie. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Je suis maman d'un enfant de 4 ans et je voulais savoir, j'ai vu pas mal d'articles sur le manque de calcium. Et j'avais deux petites questions. La première, c'est comment on peut savoir si son enfant est en manque et a des carences? Et surtout, comment y pallier, à part en lui donnant du lait et des produits laitiers? Merci.
Alors Jimmy, c'est vrai que cette histoire de calcium, ça a été prouvé il n'y a pas longtemps. Il y a une étude du CREDOC qui a été publiée, qui a montré effectivement que de nombreux enfants français manquent de calcium.
Exactement, cette étude elle a montré que près d'un enfant sur deux, âgé entre 6 et 10 ans, manquerait de calcium, un minéral qui est essentiel pour l'organisme. Et ces chercheurs ont montré que les choses ont changé assez récemment. Entre 2010 et 2016, la part des enfants âgés de 3 à 5 ans dont l'alimentation ne couvre pas suffisamment leurs besoins en calcium est passée de 4% à 20%.
Ah oui, quand même.
Et chez les enfants de 6 à 10 ans, elle est passée de 33% à 45%.
C'est-à-dire la moitié des enfants de 6 à 10 ans qui manquent de calcium. Comment on l'explique ?
C'est une conséquence directe de la baisse de consommation des produits laitiers, notamment du lait, au petit déjeuner, mais aussi des yaourts et des fromages. Le lait est finalement à mauvaise presse. On a l'impression que ça ne sert à rien et que peut-être même si on le prend, ce serait peut-être néfaste pour la santé. Donc il y a une défiance. Or, le lait, on sait que c'est une source importante de calcium et de vitamine D. Ça sert à la croissance osseuse et à la minéralisation, non plus aussi des os.
Alors, si on ne prend pas de lait, on peut compenser par quoi d'autre rapidement ?
Yaourt, fromage, voilà. Du lait.
Les fromages, c'est vrai qu'on n'y pense pas au goûter, c'est une bonne idée par exemple.
C'est une bonne source de calcium, c'est mieux que la viennoiserie bourrée de sucre.
Et de calcium surtout quand même.
Exactement.
Le fromage vraiment. Hein, et pas, oui, pardon, c'est ce que vous disiez. Excusez-moi. Merci Jimmy. Alors si vous aussi, comme Sophie, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Surtout, n'hésitez pas, nous y répondrons au plus vite.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des risques des écrans sur les plus jeunes, du risque surtout de troubles du langage. Et puis, on accueillera aussi notre invité, le professeur Patrick Marcelin, avec qui nous allons faire le point sur la NASH, la maladie du foie gras humain. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, l'hépatologue Patrick Marcelin avec qui nous allons tout vous dire sur la maladie du foie gras humain, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui Jimmy, vous nous parlez d'une étude qui a été publiée ce matin par Santé publique France, c'est pour ça que tous les médias en parlent depuis ce matin. Une étude assez inquiétante concernant les écrans avec des chiffres très précis.
Oui, on s'est intéressé à des enfants âgés de 3 ans et demi à 6 ans et demi, nés entre 2010 et 2012, chez qui on a diagnostiqué des troubles du langage primaire. Et on les a comparés à des enfants du même âge qui n'ont pas de troubles du langage. On a interrogé les parents sur la façon dont leurs enfants étaient exposés aux écrans, tels que la télévision, l'ordinateur, la console de jeu, la tablette ou le smartphone. Et on a cherché à savoir s'il y avait un lien entre exposition aux écrans et troubles du langage.
Et alors, quels sont les résultats précisément ?
Les enfants exposés le matin avant l'école aux écrans ont 3 fois plus de risques de développer des troubles primaires du langage.
3 fois plus, c'est énorme, effectivement. Alors pourquoi ça serait plus grave finalement de le matin ou un autre moment dans la journée ?
Ça peut s'expliquer par le fait que l'exposition aux écrans dès le matin épuise l'attention de l'enfant qui se retrouve moins apte aux apprentissages pour le reste de la journée.
C'est dommage parce que ça donne un petit peu de temps aux parents.
Oui, mais c'est une très mauvaise idée.
J'avoue que ça m'arrive de temps en temps.
Une étude a montré aussi que sur des enfants de 4 ans, l'exposition à un contenu télévisé fantastique, rapide, avait un impact négatif et immédiat sur leur fonction exécutive. Ces programmes rapides sont les plus regardés par les enfants.
Oui,
de plus, lorsque l'enfant regarde un écran, il répond à une attention primaire réflexe, qui n'est pas une attention volontaire. L'attention volontaire, c'est ce qui permet aux enfants d'accomplir les tâches nécessaires aux apprentissages, alors que l'attention primaire réflexe, celle qui fait que vous regardez l'écran, les excite et les épuise.
Et il y a d'autres éléments qui peuvent augmenter ce risque d'apparition du trouble du langage.
Si en plus de regarder des écrans avant d'aller à l'école, les parents ne discutent rarement ou jamais du contenu des écrans.
Ah oui, moi je commente toujours trop. Hein, donc moi,
très bien. Mais le fait de ne pas commenter ce qu'ils ont vu augmente le risque de 6 fois de développer des troubles du langage par rapport aux enfants
qui
ne
regardent
pas.
Si on le laisse comme un zombie devant.
Exactement.
En fait,
s'ils sont en roue libre, les enfants à ce moment-là, ils ont plus de troubles du langage. On sait que laisser un enfant de moins de 2 ans seul devant un écran, il ne ressent aucune amélioration des apprentissages. Un enfant seul devant un écran ne progresse pas. Et en plus de ça, on sait qu'il faut discuter du contenu des écrans avec leur enfant parce qu'ils peuvent être exposés à un contenu inapproprié pour leur âge. Et en plus de ça, on sait que même si le contenu est approprié, il ne peut pas forcément être adapté à la personnalité des enfants. Limitez l'exposition écrans à vos enfants.
Règle.
Et s'ils regardent quelque chose, discutez-en. C'est la base de l'éducation.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils. Et donc, tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est le professeur Patrick Marcelin, hépatologue et chercheur à l'hôpital Beaujon à Clichy.
15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour professeur Marcelin.
Bonjour.
Alors d'abord, avant de parler de la NASH, la maladie du foie gras, on a dit qu'il serait notre sujet du jour. Je crois qu'il y a un message qui ne passe pas assez, selon vous. On ne dépiste pas assez les maladies du foie en général.
Oui, en effet, les maladies du foie, finalement, ce sont des maladies extrêmement fréquentes. On considère que 25% de la population mondiale a un foie plus ou moins malade. En France, on considère que c'est de l'ordre de 20% de Français adultes qui ont un foie qui souffre. Alors, les causes de cette souffrance peuvent être des virus, les hépatites B, les hépatites C,
l'alcool
et puis la graisse. On va parler de la graisse qui devient l'ennemi numéro un, finalement, du fait de la malbouffe.
Alors justement, c'est le sujet du jour, c'est ce qu'on appelle donc la NASH, la maladie du foie gras humain, la maladie du soda.
Oui.
Donc vous dites que c'est un foie qui est gras, il y a de la graisse,
oui.
Hein, c'est ça ?
Oui, parce que le foie, c'est une fonction tout à fait normale du foie, il le stocke le sucre qu'on absorbe sous forme de graisse. Donc si on absorbe trop de sucre, on va avoir un stockage exagéré qui devient pathologique, stockage sous forme de graisse, et c'est le foie gras, ce qu'on appelle en langage médical la stéatose. Alors, le foie gras, c'est pas très grave en soi s'il n'y a pas d'inflammation. Mais lorsque cette surcharge en graisse se prolonge trop longtemps, à ce moment-là, le foie réagit avec une inflammation et ça peut entraîner une maladie très grave.
Jimmy ?
Et justement, cette maladie très grave, parce que foie gras... Bon, ça fait un peu peur, mais la maladie très grave, c'est finalement la cirrhose ou un risque supplémentaire de développer un cancer.
Oui,
ça peut aller loin. Ouais.
Oui, parce que si on prend donc 20%, un Français sur 5 a de la graisse dans le foie. Si on prend ces Français qui ont de la graisse dans le foie, il y en a 1 sur 5 qui va avoir de la graisse avec de l'inflammation, c'est-à-dire vraiment la forme la plus sévère de la de
la maladie
foie gras,
en elle-même, la vraie NASH.
Et
quoi.
C'est ce qu'on appelle la NASH. La vraie NASH, c'est une surcharge en graisse avec de l'inflammation. Et c'est l'inflammation, c'est-à-dire un mécanisme de défense du foie contre la graisse, finalement, qui se retourne contre son propre foie, qui entraîne la fabrication, la production d'une fibrose, d'une sclérose, d'une cicatrice, qui va évoluer avec le temps, 10, 20, 30 ans, vers la cirrhose, avec le risque d'insuffisance hépatique et de cancer du foie.
Et le problème, c'est qu'on a ce problème-là en France, mais partout dans le monde. Aux États-Unis, c'est une épidémie, je crois.
Partout. Hein. Alors, on est en retard sur les États-Unis, puisque la malbouffe est arrivée un peu plus récemment. Mais aux États-Unis, c'est un véritable fléau. C'est la première cause de cirrhose et de cancer du foie, la première cause de transplantation du foie.
Professeur Marcelin, on ne fait que commencer cet entretien. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on passe donc au diagnostic. Comment savoir si on souffre soi-même d'une NASH, si on a donc un foie plein de graisse? Vous allez voir, même s'il y a peu de signes extérieurs, un simple dosage sanguin peut vous mettre sur la piste. Ça vaut le coup, car c'est une maladie grave, mais réversible. Si on la prend en charge tôt, on vous dira tout. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. Alors à mes côtés, comme toujours, le docteur Jimmy Mohamed, on ne se lasse pas de vous. Et notre invité, le professeur Patrick Marcelin, est pathologue et chercheur à l'hôpital Beaujon à Clichy. Alors professeur, on parle de la NASH aujourd'hui, de la maladie du foie gras humain. Et je crois qu'en ce moment même, des hépatologues du monde entier sont réunis dans un congrès que vous présidez, d'ailleurs la Paris Hepatology Conference. Et la NASH, donc cette maladie du foie gras, elle est au cœur des préoccupations de tous ces médecins.
Oui, hein. Tout à fait. Alors ce congrès mondial que j'ai créé en 2004, hein, qui est annuel, c'est le rendez-vous de environ 1000 hépatologues du monde entier, 60-70 pays. Et à chaque fois, chaque année, on fait le point sur les gros problèmes de santé publique concernant les maladies du foie. Avant, c'était surtout les hépatites virales, l'alcool. Ces problèmes persistent. Mmh. Mais c'est vrai que le grand sujet, cette année, c'est la NASH, du fait du...
Parce que c'est
grand,
partout dans le monde.
On observe ce phénomène, je vous dis, 25% de la population mondiale, c'est jusqu'à 30% dans certains pays, et ça n'épargne pas l'Europe de l'Est, l'Asie et l'Afrique.
Et donc cet ennemi, on l'a identifié, l'ennemi de cette NASH,
oui.
C'est le sucre, hein, c'est ça
oui,
c'est
oui.
Qu'est-ce qui fait dans notre foie concrètement, ce sucre?
En fait, parce qu'on pense toujours que l'ennemi... Pour ne pas avoir de la graisse dans le foie, il ne faut pas manger de graisse.
Mais c'est pas ça.
C'est vrai qu'il ne faut pas manger trop de graisse, mais le sucre, c'est l'ennemi numéro un, puisque le foie, sa fonction, qui est tout à fait normale, le foie stocke l'énergie, stocke le sucre sous forme de graisse. Il a cette possibilité.
C'est son job.
C'est son job, parce que le sucre, ça ne se stocke pas. Donc, il faut le transformer en graisse pour le stocker dans le foie. Et il le libère ensuite en le transformant en sucre lorsqu'on fait un exercice, lorsqu'on ne mange pas. Eh ben, c'est un organe de stockage pour si jamais on a... Ben, les hommes ne mangeaient pas tous les jours, à 3 fois par jour. Il fallait que le foie régule ce métabolisme.
Et quand il stocke, il devient gras et c'est là que ce
Alors,
foie devient
si stocke,
malade.
Ouais. Voilà. Donc, à partir du moment où on a un changement complètement de mode de vie, on est sédentaire.
Du sucre, il y en a partout.
Et,
hein.
On mange plus de sucre, le foie sature en sucre et stocke plus qu'il n'en dépense. Donc, saturation de graisse veut dire souffrance du foie, éventuellement NASH.
Jimmy ?
Et on parle de tous les sucres. Le sucre contenu dans une banane est le même que celui dans une canette de soda, par exemple ?
Non, alors c'est vrai qu'il y a des mauvais sucres, de plus ou moins mauvais, mais en gros, c'est très difficile de sélectionner le sucre qu'on a envie de manger qui est bon. Je dirais que les sucres les plus dangereux, bon, bien sûr, sont les sucres directs, hein, c'est mettre trois morceaux de sucre dans son café, etc.
C'est pas bon.
Et puis le soda, les pâtisseries.
Et mais tout ce qui est caché aussi, hein, voilà, dans les voilà, plats, des plats tout faits, on n'imagine pas qu'il y a du sucre dans les pizzas, dans les lasagnes surgelées.
Voilà,
dans ces
certains
choses-là,
de mes patients qui ont une NASH, ils me disent moi, je fais attention, je n'utilise pas de
gâteau,
sucre,
ouais.
Je mange jamais de gâteau. Mais ils mangent des sauces, des plats préparés, etc. Et vous savez, dans les plats industriels, bah, si vous regardez bien les étiquettes, c'est plein de sucre.
Et donc, les enfants, ils pourraient être touchés aussi par cette NASH, parce que les enfants, aujourd'hui, ils boivent plein de soda.
C'est un énorme problème. C'est un énorme problème. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est un fléau chez les enfants, les adolescents. La surcharge pondérale, l'obésité qui s'accompagne. On voit des NASH de plus en plus tôt. Et en France, c'est un phénomène qui débute. Et il faut être très prudent. Et dans l'éducation des enfants, il faut leur apprendre à s'alimenter correctement.
Parce que ça peut mettre 10 ans après à se développer pour avoir vraiment le foie malade, mais on peut démarrer ça dans l'enfance. Jimmy ?
Est-ce qu'on peut dire que la NASH, c'est comme l'hypertension et le diabète, c'est un tueur silencieux, c'est-à-dire qu'on n'a pas de symptômes avant un stade très avancé ?
Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, souvent, ces maladies métaboliques, cholestérol, diabète, etc., sont associées à la NASH. Donc je dirais que la NASH, c'est le résultat d'une maladie métabolique, c'est un trouble métabolique, et vous avez tout à fait raison, le problème des maladies du foie en général, et de la NASH en particulier, c'est parfaitement silencieux.
Ça fait pas mal.
Ça fait pas mal du tout, on n'a jamais mal au foie, le foie c'est un organe très discret, qui travaille en silence.
D'ailleurs, on
ne
sait même pas où il est en général, ce foie, il est où ? Parce que vous m'avez posé la question pendant l'émission, alors, pendant la publicité, mais j'ai eu un peu du mal à le situer. J'ai trouvé le bon côté, mais c'est où le foie ?
Bah, écoutez, 70% des Français ne savent pas où est leur foie et à quoi il sert exactement. Hein. Il se trouve sous les côtes, à droite. Et pourquoi il est sous les côtes ? Parce que c'est un organe essentiel à la vie. Il est protégé par les côtes.
Ouais. Et donc,
on ne le sent pas, il est silencieux, il souffre silencieusement, et on peut faire une cirrhose et un cancer du foie sans avoir aucun signe.
Et on va en parler, il y a quand même une prise de sang qui permet de dépister, on en parle juste après, professeur Marcelin, nous allons continuer cette discussion, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on passe évidemment à la prise en charge de cette maladie. Découvrir qu'on a un foie gras, une NASH, n'est pas une fatalité. En tout cas, découvert tôt, il est possible de régénérer en quelque sorte son foie grâce à de nouvelles habitudes de vie. Ça passe notamment par une perte de poids. Et puis, il y a des médicaments qui arrivent. C'est tout nouveau, on vient de l'apprendre ce matin. On en parle juste après. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur Patrick Marcelin, hépatologue et chercheur à l'hôpital Beaujon à Clichy. Alors professeur, il y a quelques minutes, on a parlé des signes qui doivent faire penser à la NASH. Bon, on a vu qu'en fait, il n'y en a pas vraiment. Si ce n'est peut-être on est un peu fatigué quand on a un foie gras. Mais le meilleur moyen pour savoir qu'on a un foie malade, un foie gras, c'est de faire en fait une prise de sang. Hein, c'est ça, c'est tout simple.
Oui, parce que malheureusement ou heureusement, le foie est très discret. Et le foie souffre en silence. Donc si on a une maladie du foie, quelle qu'elle soit, elle peut évoluer sur des années, des dizaines d'années, sans aucun symptôme. Alors on peut être un peu fatigué, mais bien sûr, bon, qu'est-ce que ça veut dire la fatigue ?
Une bonne NASH, entre guillemets, qui deviendrait une cirrhose, voire un cancer du foie, ça met combien d'années à se développer en moyenne ?
Alors,
20 ans, c'est ça ?
Dans les cas les plus rapides, c'est 10 ans, mais ça met souvent 20, 30, 40 ans.
Ouais, d'accord.
Hein. Donc, c'est un processus très lent. Insidieux, hein, c'est une maladie silencieuse. Si on ne la cherche pas, on ne la trouve pas.
Et on cherche quoi en fait ? La prise de sang ?
C'est vraiment, il n'y a pas de test spécifique, hein, on n'a pas le test de la NASH. Mais on a un test très simple qui fait partie d'une simple prise de sang, d'un bilan de santé habituel, ce sont les transaminases. Alors, qu'est-ce que c'est les transaminases ? Ce sont des enzymes qui sont dans les cellules du foie, et quand les cellules du foie souffrent, les transaminases sont lâchées, sont larguées, les cellules meurent et relâchent dans le sang ces transaminases. Donc, si les transaminases montent dans le sang au-dessus d'une limite, la limite de la normale, ça veut dire que le foie souffre. Ça n'indique pas la cause, ça ne veut pas dire que c'est forcément la NASH, ça peut être l'alcool, ça peut être une hépatite, un médicament, mais ça veut dire attention, c'est un clignotant. Un clignotant qui dit je suis dans la zone orange, il faut aller plus loin et trouver la cause.
Jimmy ?
Et ce fait erreur de ma part, pour l'instant, on n'a pas de recommandation pour nous dire tous les combien de temps il faudrait faire ce bilan et à partir de quel âge et chez qui exactement ?
Oui, alors c'est vrai qu'il n'y a pas de recommandation. Les hépatologues conseillent habituellement à partir de 50 ans, de faire un dosage des transaminases tous les ans, en même temps que le bilan du cholestérol, c'est-à-dire, bon, bien sûr, ça dépend des les sujets à risque, qui ont une surcharge pondérale, un peu de diabète, un peu de cholestérol, ils vont le faire plus souvent.
Jimmy et moi, on a la trentaine, on doit déjà doser nos transaminases régulièrement.
La réponse est oui, le faire au moins une fois. Mm-hmm. Et si jamais on est dans... Bon, les transaminases normales, vous savez, habituellement, ça dépend des laboratoires. Mais elle est indiquée, la normale, c'est autour de... ça ne doit pas dépasser 40. Mais les transaminases normales, on doit être à 20-25. Mm-hmm. Si on est à 39
c'est déjà
ou
pas
40,
bon.
Ça veut dire que bon, on est, c'est un peu oui, c'est un peu limite. Et quand on est à 42, 45, 50, une petite élévation, la gravité de la maladie du foie n'est pas corrélée à l'élévation des transaminases. Donc l'élévation des transaminases dit attention, mon foie va pas bien, il faut que je sache pourquoi, il faut peut-être que je change mon mode de vie. Mm-hmm. Donc il faut y faire attention, non seulement faire le test, mais après faire le suivi, le bilan qui est nécessaire pour
et ça,
comprendre.
Ça, c'est aux généralistes d'y penser, de nous prescrire. Non, alors, je ne sais pas. Enfin, c'est eux qui devraient...
Alors,
parce que
oui,
on dit ça aux patients. Bon, c'est-à-dire, le patient peut demander à son généraliste.
Oui, mais... alors, il y a une enquête récente qui a été faite dans la région de Marseille qui a montré que les bilans sanguins classiques, cholestérol, glycémie, numération sanguine, etc., 25% incluaient le dosage des transaminases. C'est tout à fait insuffisant. Donc, le médecin n'y pense pas forcément.
Jimmy, vous y pensez, vous, qui êtes généraliste ?
Oui, mais c'est vrai qu'il y a une obsession cholestérol, oui. Diabète de la part,
voilà,
des patients et aussi des médecins. Et puis, thyroïde, tout le monde est persuadé d'avoir une maladie thyroïdienne en disant ouais. « dosez-moi ma thyroïde », mais le bilan hépatique ne parle pas aux patients. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas conscience de...
Oui, parce que le foie n'est pas la mode. Le foie n'est pas la mode parce qu'il est silencieux. Donc, on est beaucoup plus sensibilisé, d'ailleurs le public aussi, hein, tout le monde, on a peur du cholestérol, on a peur du diabète, mais les transaminases, le foie, on ne connaît pas. Mais il faut connaître l'état de son foie. Pour connaître l'état de son foie, il faut parfois glisser à son médecin traitant, pourquoi pas, faites-moi les transaminases lors du prochain bilan.
Mais parfois le patient demande, il dit, mettez-moi la totale. Donc peut-être, non, mais c'est
oui.
vrai, ils veulent
la totale.
Donc c'est peut-être à nous aussi de peut-être prescrire un peu plus de bilan hépatique.
Vous le faites quand même, vous, les transaminases, de temps en temps.
Quasiment systématiquement, dès qu'il y a un bilan, on se dit, on va voir ce qui se passe, et puis si le bilan est normal, on verra dans quelques temps.
Si vous voulez, pour moi, les transaminases, c'est la glycémie du foie. Hein. Ça ne fait pas partie d'un bilan supplémentaire. Ça doit faire partie de bilan de base, comme numération sanguine, glycémie, cholestérol. Et si c'est normal, on est tranquille, on va surveiller. Si ce n'est pas normal, ça veut dire qu'on a probablement un mode de vie qui expose au foie gras et à la nage.
Et justement, donc on a ces transaminases élevées, admettons, donc ça veut dire qu'il y a un signal, le foie souffre. Qu'est-ce qu'il faut faire derrière pour commettre autre examen éventuellement pour confirmer ou pas qu'on a un foie gras ?
Alors, il faut d'abord chercher d'autres causes, hein, bien sûr.
L'alcool,
d'ailleurs,
et puis un virus,
on peut être un peu trop gros, avoir du foie gras et boire un peu trop.
Ça peut être un peu tout en même temps.
Il faut éliminer quand même les hépatites B et C, ça c'est plus rare, mais ça existe. Mm-hmm. Ça existe. Et une fois qu'on n'a pas trouvé d'autres causes...
On fait une échographie du foie peut-être.
L'échographie du foie.
Ouais, c'est ça.
L'échographie du foie, bah, c'est sans danger, c'est un examen qui est simple. Et si le foie est gros et brillant à l'échographie, ça veut dire qu'il est plein de graisse.
Un bon gros foie, ça, à l'échographie, voilà. On le voit tout de suite, hein, c'est ça?
Ah oui, on le voit tout de suite. En tout cas, on le voit lorsqu'il y a plus de 30% des cellules du foie qui ont de la graisse. Donc on ne voit pas les petites surcharges en graisse, on voit les gros foie gras, hein, ou le moyen foie gras, mais c'est déjà important, ce sont les cas les plus graves qu'on va dépister.
Et à ce stade-là, c'est encore réversible, et si c'est réversible, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'une simple perte de poids peut rétablir les choses?
Oui, alors justement, l'enquête va permettre de savoir quelle est la cause, et en premier lieu, c'est la surcharge pondérale. Pas forcément l'obésité, hein. Ça peut être, on a pris quelques kilos, un kilo par an, on a 5-6 kilos de trop, et ça suffit pour faire un foie gras, et parfois, donc la forme grave dont on parle, c'est la nage. Donc le poids, et puis la sédentarité, hein, malheureusement, vous parliez des écrans tout à l'heure, c'est sûr que les enfants qui restent devant leurs écrans, les adultes qui restent devant leurs écrans, ils ont tendance à grossir plus. Donc, il y a des moyens très simples, manger mieux, moins de sucre, perdre du poids, un peu d'exercice, ne serait-ce que de la marche. C'est réversible, totalement réversible, le foie peut redevenir normal.
Mais vous en
avant
avez vraiment
cirrhose,
des patients qui reviennent à l'état normal?
Alors,
vous en voyez en consultation?
1 sur 2.
Quand ils maigrissent comme ça, qu'ils arrêtent de manger
un
trop
sur
de
deux,
sucre ouais.
C'est-à-dire, on donne tous ces conseils aux patients.
Ils refont une écho et le foie, il est plus tout brillant, tout gros, comme
alors,
ça.
Alors, un patient sur deux suit nos conseils,
Ah oui, déjà, c'est ça.
Voilà.
Le problème.
Un patient sur deux suit nos conseils et ça marche. Ça marche très bien. Et un patient sur deux n'arrive pas à suivre nos conseils. Et là, il y a une prise en charge multidisciplinaire. Il faut à ce moment-là l'aide d'un psychologue, d'un diététicien, d'un nutritionniste. Ce sont des mauvaises habitudes alimentaires. Il n'y a rien de plus difficile que de changer les habitudes.
Jimmy ?
Et donc, ça a été annoncé ce matin. Apparemment, pour traiter la NASH, il y aura un traitement qui vient d'être présenté. Là.
Oui. Alors, on cherchait donc depuis quelques années... Et d'intenses recherches pour rechercher les médicaments, évidemment, en particulier chez les personnes qui n'arrivent pas à gérer et qui conservent ce foie gras dangereux avec risque de cirrhose et de cancer. Alors, la bonne nouvelle, les premiers médicaments arrivent. On aura sans doute le premier médicament qui sera enregistré cette année.
Commercialisé cette année aussi pour les patients.
Voilà,
oui, c'est
commercialisé.
Ça.
D'autres suivent.
Mais ça ne marche pas chez tous les patients
non,
quand même.
Ça marche
mais
pas.
C'est déjà combien d'à peu près
20-25% de.
C'est mieux que rien, on n'avait pas de médicaments.
D'amélioration. Alors, c'est un début. On est vraiment dans une phase de. On commence à prendre conscience de la maladie, de la gravité, de l'importance de cette maladie. Ce sont les premiers médicaments qui régulent le métabolisme, qui permettent donc de diminuer le stockage de sucre en graisse. Mm-hmm. Ça marche dans 20-25% des cas. Mais il y a d'autres médicaments qui vont arriver, plus efficaces.
Qui sont encore en cours d'évaluation, parce que j'imagine que les industriels du médicament sont intéressés, il y a un gros marché là.
Bien sûr, c'est un problème de santé publique majeur qui coûte extrêmement cher en termes de morbidité et de mortalité. Donc il y a des médicaments qui vont arriver, je pense que dans les 5 années qui viennent, on va arriver des médicaments beaucoup plus efficaces, avec des combinaisons avec plusieurs cibles, si vous voulez, agir sur le métabolisme, agir sur le poids. Mais évidemment, c'est une maladie très complexe. Il y a sans doute également des facteurs génétiques.
Et en attendant, de toute façon, votre message, c'est la prévention et le dépistage. Pour l'instant, on ne peut pas soigner tout le monde, donc c'est ça.
Il faut savoir l'état de son foie, parce que si on ne sait pas que le foie souffre silencieusement, on s'expose à des risques sévères. Et puis, il faut faire attention. Le meilleur traitement, c'est une hygiène de vie, c'est bouger et se nourrir correctement.
Et faire un petit dosage de transaminase de temps en temps, voilà, pour vérifier qu'on n'a pas de problème. Merci beaucoup, professeur Marcelin, d'être venu sur notre plateau, tout nous expliquer sur cette maladie, la NASH, la maladie du foie gras.
Merci.
Qui fait des ravages, on l'a compris, mais on peut clairement inverser la tendance. Merci encore.
Merci.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique, les bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on s'est intéressé à un fruit qui a plutôt la cote en général, la banane. Savez-vous qu'elle contient réellement quoi d'ailleurs ? Qu'est-ce qu'elle contient et qu'est-ce qu'elle peut, comment elle peut nous faire du bien ? Fait-elle vraiment grossir la banane ? On va tout vous expliquer. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence les bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on parle d'un fruit qui fait pas bobo du tout, a priori, la banane. Connaissez-vous ses qualités nutritionnelles ? En quoi est-elle riche ? Savez-vous si elle fait vraiment grossir, comme on l'entend parfois ? Notre reporter de choc, Benjamin Lévesque, a été vous donner la parole. On écoute son micro-trottoir.
J'en mange maximum une par jour parce qu'après ça rend constipé.
Pas tous les jours, mais j'en m'en sers beaucoup pour faire mes pancakes par exemple.
J'essaie au maximum d'être locavore, donc j'en consomme très peu parce que malgré tout que ça vient de France, ça vient quand même de loin, des dom-toms.
C'est pratique parce qu'il n'y a pas d'emballage, du coup on peut la manger comme ça après en balance.
Non, j'en consomme pas beaucoup et je sais qu'il faut pas en manger le soir parce que c'est très lourd et très difficile à digérer. Je conseillerais d'en manger le matin dans le muesli.
Bah, outre le fait de compter pour 5 fruits et légumes par jour, voilà quoi, c'est agréable de manger une banane.
Alors il paraît que c'est sucré et que c'est pas très bon pour la santé.
Bah, la banane en soi est pleine de fibres, en grande partie, et puis il y a des apports aussi, j'imagine, vitaminiques et de minéraux.
Je pense que ça apporte également plein de nutriments nécessaires à notre corps pour nous faire évoluer et fonctionner correctement. Après, c'est comme tout, à ne pas abuser.
Alors Jimmy, m'écoutez pendant le micro-trottoir, parce que je lui parlais beaucoup de bananes, c'est un fric.
Vous adorez la banane, Mélanie, apparemment.
C'est vrai, ça m'a fait beaucoup rire, mais écoutez, apparemment, je ne suis pas la seule, puisque c'est le deuxième fruit le plus consommé en France, derrière la pomme. Mais d'un point de vue nutritionnel, Jimmy, puisque c'est pour ça qu'on fait appel à vous, on a besoin d'un médecin pour avoir tous ces détails nutritionnels. C'est quoi les atouts de la banane, alors ?
Alors, c'est un excellent aliment pour l'effort, qu'il soit intellectuel ou sportif.
Ça m'étonne pas du tout.
Oui, mais pas pour moi. C'est un fruit qui est très nourrissant, il apporte une centaine de calories, il est riche en sucre, mais du sucre naturel, rien à voir avec le soda dont on a pu parler.
Bien sûr.
Du sucrose, du glucose, de l'amidon et du fructose. C'est aussi riche en protéines, ce qui fait que certains sportifs peuvent l'utiliser.
On en voit un tennisman pendant les matchs, des fois qui mange des bananes.
Et aussi car elle est très régénératrice, notamment aux sucres qui sont rapidement assimilables en moins de 2 heures par l'organisme. Ce qui veut dire qu'après un effort important que vous avez l'habitude de faire, Mélanie, car voilà, vous êtes une sportive avérée.
C'est mon meilleur ami, la banane.
Et ben, ça permet une très bonne récupération.
J'en ai une dans mon sac de danse pour ce soir, d'ailleurs. C'est très riche en sucre, la banane. Vous l'avez dit, donc c'est peut-être pas recommandé, par contre, pour les personnes diabétiques, par exemple.
Au contraire, ça peut permettre de réguler la glycémie et ça peut être pas mal, notamment chez les diabétiques de type 2, car en fait, elle a des fibres qui réduisent la vitesse d'assimilation des glucides et donc ça peut être un aliment intéressant chez les diabétiques de type 2.
Bon, alors pour les diabétiques passants encore, mais alors pour les gens qui font attention à leur ligne, parce que vous avez dit, c'est plein de sucre quand même, la banane. Si on est au régime, on oublie.
Non, elle reste que malgré tout recommandée pour ceux qui souhaitent perdre un petit peu de poids. Elle est très intéressante sur le plan nutritionnel. Elle est riche en fibres, en
elle
minéraux.
Elle est rassasiante, moi, je trouve. Et surtout,
exactement.
Quand on en mange, on n'a pas faim. Après, c'est un peu un effet coupe-faim. C'est délicieux. Et en plus, derrière.
Contrairement aux petites unoiseries qui vont nous caler rapidement et pour qui on va avoir une petite faim derrière et qui vont être très riches en sucre, des bombes caloriques. Donc, mieux vaut une banane qu'un croissant au beurre.
Bon, il n'est pas question d'en manger non plus 10 par jour. Si on reste sur les qualités nutritionnelles de ce fruit, je crois qu'on peut ajouter que la banane, c'est bon en période de fatigue, d'examen, par exemple, parce que c'est riche en magnésium. Hein,
exactement.
C'est ça
quasiment la moitié de la population est carencée en magnésium. C'est un aliment qui est très riche. Du coup, en cette vitamine. Pour 100 grammes, on a 35 mg de magnésium.
C'est pas mal. Hein.
Et puis, on peut aussi l'avoir sous forme de sachet ou de fruits qui est un peu plus riche que lorsqu'on prend sous forme de
séché, pardon, pas sachet.
De séché en sachet,
voilà.
Où c'est un peu plus riche en magnésium avec 105 mg pour 100 grammes de banane. C'est idéal notamment en période d'examen, on l'a dit, pour le stress, pour le moral et pour la fatigue. Et puis, ça contient aussi une forte concentration de potassium. Et le potassium, c'est très important, notamment lorsqu'on a la diarrhée.
Eh oui, donc c'est pour ça, moi je me disais la propriété digestive aussi de la banane, vous nous la prescrivez, vous me l'avez déjà dit, en cas de gastro, on prend des bananes, du riz, enfin banane pourquoi ?
Riz, banane, carotte, les fibres sont un peu différentes de celles qu'on peut trouver dans d'autres aliments, et donc à ce moment-là ça peut aider à ralentir un peu le transit, et le potassium, parce que lorsqu'on a la diarrhée, on perd beaucoup de potassium, lorsqu'on le vomit aussi, et donc ça permet de compenser les pertes.
Donc, et puis je rajoute que les vertus digestives de la banane ne s'arrêtent pas là. La banane, c'est aussi un aliment anti-acide qui permettrait, selon certains spécialistes, de lutter contre les brûlures ou les aigreurs d'estomac. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed. Vous avez toujours la banane. J'avais envie de la faire.
Pire chute de l'histoire de la radio.
Merci. Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, c'est la chronique sexo. Aujourd'hui, avec Catherine Blanc, notre sexologue, il sera question des ex. Est-il normal, voire dangereux, de continuer à avoir des rapports sexuels avec celui ou celle dont on est pourtant séparé? Catherine nous dira, bien sûr. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, elle entre dans le studio. C'est Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie. Bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question de Claire. Claire, donc je vous la lis, c'est la question suivante. Je me suis séparée de mon copain il y a 1 an et demi. Depuis, j'enchaîne les rendez-vous sans succès. Cependant, avec mon ex, on se revoit régulièrement pour faire l'amour. J'y prends beaucoup de plaisir, encore plus que lorsque nous étions ensemble. Comment c'est possible? Alors Catherine, vous voyez beaucoup de personnes comme ça qui ne sont plus ensemble mais qui continuent à avoir des rapports sexuels, après avoir été ensemble longtemps quand même. Hein.
Oui, c'est parce que ce n'est pas facile de se quitter, et souvent on se quitte parce que l'autre ne fait pas carton plein sur tous les désirs, sur toutes les attentes. Pour autant, ce qui les unissait, si sexuellement ou si en termes de tendresse ou en termes de corps, simplement d'émotions corporelles, eh bien cela se passait agréablement, et c'est difficile de se priver de cette douceur et de ces deux corps qui se connaissent et se reconnaissent facilement.
Mais est-ce qu'il faut coucher avec son ex? Enfin, c'est un peu lapidaire comme question. Comme
ah
ça,
oui,
y a pas,
non, est-ce qu'il faut? Il n'y a pas de règle, ça m'a pas dit faux de toute
façon. J'ai l'impression que je me dis que si c'est fini, ce n'est pas logique de continuer, non? Enfin, je ne sais pas.
Ah ben, ça n'ouvre pas la possibilité de créer quelque chose d'autre, puisque finalement, il y a au moins la satisfaction sur un point avec cette personne que l'on a aimée et que l'on aime toujours, pour ce qui fonctionne bien, savoir la sexualité. Et qui fonctionne d'autant mieux que
apparemment,
justement.
C'est ce qu'elle dit, ça n'a jamais été aussi bien, apparemment.
Oui, parce qu'il n'y a pas les contentieux sur les autres sujets. Il y a juste la liberté du corps, et puis il y a aussi le risque de perdre l'autre puisqu'il ne nous appartient pas, et comme il n'appartient pas, et bien d'un seul coup, il faut décupler de possibilités de rencontres.
Jimmy ?
Et pourquoi Claire fait ça ? Est-ce que c'est pour assouvir un besoin primaire naturel de relation sexuelle, ou est-ce que ça va au-delà pour peut-être essayer de retrouver un semblant de relation, reconstruire quelque chose ?
Alors, ça peut être parce que elle veut retrouver, ou parce qu'elle veut pas laisser la place libre aussi. Vous avez des tas de relations qui redémarrent juste pour qu'il n'y ait personne qui vienne s'immiscer, surtout si elle, elle est en difficulté de reconstruire des choses.
Oui, elle dit qu'elle a, en plus, elle a des rendez-vous sans succès, donc ça n'a pas l'air de marcher la reconstruction.
Voilà, donc du coup, il ne faudrait pas que ça marche pour lui, par exemple. Ou alors, c'est que comme
c'est égoïste, ça, quand même, un petit peu.
Oui, mais vous savez, l'être humain est essentiellement égoïste, pas plus elle que nous, d'ailleurs. Mmh. Mais effectivement, nous réfléchissons toujours du point de vue de notre confort et de nos urgences, etc. Alors peut-être aussi que comme elle enchaîne les relations sans succès, eh bien, elle a besoin de veiller à garder une relation, donc elle garde celle-là, comme si on ne pouvait pas vivre sans relation, comme si on ne pouvait pas vivre sans sexualité. Or, il y a des fonctions que sont respirer, déféquer, se nourrir, etc., qui sont des fonctions obligatoires, sinon nous sommes en danger. La sexualité n'en fait pas partie.
Et est-ce que ce n'est pas tout simplement parce que Claire, elle est encore amoureuse de cet homme, en fait, tout simplement? Ça peut être ça aussi, c'est juste l'amour est toujours là. Bon, c'est pas tout à fait fini.
Ça c'est difficile parce que la notion d'être amoureuse, qu'est-ce que ça veut dire encore une fois? Où c'est la partie, nous parlons de la partie égoïste de nous-mêmes, c'est-à-dire en réalité j'ai encore besoin de toi, donc comme le disait Platon, donc comme j'ai besoin de toi, bien, il y a quelque chose de moi qui t'aime et donc je n'arrive pas à te quitter. Être amoureux, c'est quand même autre chose, c'est s'émerveiller de l'autre, s'émerveiller de ce qu'il est indépendamment de ce qu'il donne.
Mais elle ne décrit pas ça non plus dans son message.
Je ne pense pas que ce soit de ça dont il s'agit.
Jimmy ?
Est-ce qu'il y a des règles à respecter, notamment, je ne sais pas, est-ce qu'une fois qu'on a eu ce rapport sexuel, on doit rentrer à la maison et ne pas rester sur place, pas de dîner, pas de complicité, est-ce qu'on doit vraiment limiter ça au sexe ou il peut y avoir...
Je crois que là, vraiment, c'est l'histoire très individuelle de chacun. Il y a évidemment... pourquoi faudrait-il qu'on soit ou en couple ou des sex friends avec une limitation extrêmement étroite de la relation qui serait purement la sexualité, surtout pas s'endormir ensemble, surtout pas prendre un petit déj ensemble et surtout pas aller au ciné ensemble. Bien sûr que les gens font ce qu'ils veulent, même dans l'incohérence pour l'extérieur. Parce que ce n'est que pour l'extérieur que c'est incohérent. Pour ce couple, ça, ou pour ces deux individus, ça raconte quelque chose d'eux-mêmes, de leurs possibilités, de leur utilisation réciproque l'un de l'autre en toute bonne foi et sans culpabilisation, ou au contraire une façon de continuer à tisser un lien qui a toujours été et la difficulté de le délier justement.
Et vous avez dit pour ce couple, donc pour vous ils peuvent quand même former un couple, avoir des relations sexuelles avec son ex même s'il n'y a pas de relation d'amitié ou de complicité.
C'est un couple sexuel.
Oui, voilà, c'est pas le couple au sens effectivement de la construction, mais c'est en tout cas une construction érotique. C'est déjà ça. Ce sont donc des. Il y a ce terme qui est assez étonnant. On voudrait mettre couple pour le terme amour et puis sex friend. Tout de suite, on n'est que des amis. Mais de toute façon, un couple, il y a des tas de couples qui vivent ensemble et jusqu'à la fin de leur jour et qui sont plutôt des amis que des amants.
Et si elle veut se reconstruire, il faut quand même qu'elle arrête peut-être à un moment donné. Et si elle veut créer autre chose avec quelqu'un d'autre.
Si elle veut créer quelque chose, à moins de vouloir être sur plusieurs fronts à la fois, mais du coup c'est très insécurisant pour elle et pour l'autre, mais il faut accepter de lâcher une relation pour pouvoir en créer une autre et pas chercher une autre pour se secourir parce qu'on est seul, ni garder quelqu'un tant qu'on n'a personne, sinon c'est évidemment toujours des routes de secours et pas une relation créée.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils, on vous retrouve bien sûr demain, voilà, c'est la fin de cette émission, demain dans notre grand dossier du jour, on va prendre soin de votre dos puisque l'on s'intéressera aux bonnes postures à adopter pour éviter d'avoir mal, mais tout de suite on retrouve Mathieu Noël et son équipe est sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Aujourd'hui, restez avec nous, c'est l'auteur à succès David Foenkinos qui sera notre invité dans l'équipe est sauvage. David Foenkinos est un invité particulier pour nous puisque c'est lui qui avait fait le pilote, l'émission zéro de notre émission en juillet dernier. On est content de fêter nos bonnes audiences avec lui aujourd'hui. Clin d'œil du destin.
Merci beaucoup Mathieu, je vous souhaite évidemment une excellente émission comme tous les jours et vous, surtout, restez sur Europe 1.